Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ça y est, the king is back, Big Rusty est de retour. Il revient de Corfou et en plus, vous allez le voir sur sa main droite, il a fait le nécessaire avec un nouveau tatouage.
Ah, c'est du henné. Mais voilà, il y avait moyen de faire des trucs au henné. Je me suis dit, putain, il y a la même fleur de lys que Georges Saint-Pierre sur le mollet. Et du coup, je me le suis fait sur la main. Voilà, ça va durer 2-3 semaines. Et désolé du coup pour mon absence pour les podcasts. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais la connexion Wi-Fi était tellement préhistorique qu'on a tout tenté. Mais voilà, on a perdu beaucoup de temps surtout. Et du coup, on n'a pas pu faire les podcasts là.
Exactement, en vain. En tout cas, le monsieur est de retour. Et donc là, on va parler des conséquences de l'annonce de Ramzat Chimaev contre Nate Diaz. Je vous en avais parlé en plaisantant un peu avec les matchmakers de l'UFC, ont du sang sur les mains. Bah, y a des gens qui pensent ça sérieusement. Et c'est vrai que là, plus on avance, plus les gens se disent sportivement, le combat est extrêmement déséquilibré. Dont Dan Hardy, fin analyste de MMA, mais qui est vrai, hein, depuis son départ de l'UFC, il est peut-être un petit peu plus biaisé que d'habitude vis-à-vis de l'organisation. On va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Swear.
Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Donc Big Rusty, qu'est-ce qu'il nous raconte Dan Hardy par rapport au combat Nate Diaz contre Ramzat Chimaev? Un même Dan Hardy qui va bientôt affronter Diego Sanchez dans un combat tout aussi équilibré.
Ouais, c'est pour ça. En fait, bon, ce qu'il dit en substance, Dan Hardy, c'est, il disait ça à Ariel Wani dans The MMA Hour, c'est que c'est, grosso modo, c'est presque un assassinat, en fait. Parce que il se base sur le fait que, ben, évidemment, Ramzat est un lutteur. Il se base sur ce qu'il a fait à Rhys McKee et puis à, j'ai oublié le nom de son autre adversaire, John Phillips, Li Jingliang, voilà, je les ai devant. Et il se base sur ça pour dire, mais attendez, on a d'un côté Nate Diaz qui est connu pour être un bon boxeur, mais pas forcément très bon dans les transitions. C'est-à-dire que je me souviens même pas de ma vie avoir vu Nate Diaz tenter un takedown, résister à des takedowns, à part quand c'est des takedowns paniques de Conor McGregor. Il résiste pas forcément beaucoup. On se souvient effectivement, et c'était il y a déjà bien des années, et tu t'en avais parlé, de Rory McDonald par exemple, qu'il avait fait voler dans tous les sens. Et en fait, pour Dan Hardy, c'est presque criminel ce que fait l'UFC, parce que c'est un tel mismatch.
Tu ouvres les guillemets, hein, quand tu dis ça. C'est vraiment Dan Hardy.
Absolument.
Qui dit ça.
Ouais. Alors, pour le fait que ce soit presque criminel, ça, ce sont les mots exacts du rédacteur Jed Meshew de MMA Fighting. Comme ça, on sera sûr et certain de ne pas avoir de problème. Mais donc le rédacteur de MMA Fighting dit, pour Dan Hardy, c'est presque criminel. Mais ce que dit exactement Dan Hardy, c'est, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus soft, ce que dit exactement Dan Hardy, c'est ça n'a pas l'air d'être un combat très juste. Ça a l'air d'être une chose très cruelle à faire à quelqu'un qui est une vraie légende, parce qu'ils ont parlé contre l'organisation. Ils vont se faire exécuter en direct à la télévision. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et ça me rend un peu inconfortable de penser que c'est comme ça que ça va se faire. Donc ça, c'était les mots de Dan Hardy exactement. Donc, c'est difficile, même s'il est peut-être biaisé contre l'organisation, parce qu'on sait qu'ils ne se sont pas quittés en bon terme du tout, l'UFC et Dan Hardy. Au-delà du possible biais, c'est difficile d'aller contre cette analyse, dans le sens où c'est vrai que non seulement il y a tout ça, mais en plus de ça, Nate Diaz n'est même pas un welterweight. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un lightweight, pas naturel, parce que dans la vie de tous les jours, il fait peut-être 80 kilos, 85. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est à sa catégorie idéale lorsqu'il doit couper du poids en lightweight. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a passé la majorité de sa carrière. Tandis que, bah, on sait que Khamzat, c'est welterweight, mais il se tue un peu pour faire welterweight. Il est plutôt, je pense qu'il finira sa carrière soit en middleweight, soit en light heavyweight. Enfin, je pense, et c'est même lui qui le dit. Donc, au-delà même des compétences en elles-mêmes qui font qu'effectivement, même s'il est très bon au sol, Nate Diaz, on le sait maintenant, on a tellement de recul par rapport à ça, que être bon au sol, ça ne suffit pas. En fait, avoir un bon jiu-jitsu, ça ne suffit pas quand tu es face à un lutteur, parce que le lutteur va nullifier, il va pas te laisser jouer, en fait. Il va pas te laisser prendre de l'espace, il va pas te laisser faire ce que tu fais normalement. C'est-à-dire qu'il va te bloquer et il va te savater, quoi. Et quand on voit la vigueur et le contrôle et la violence avec lequel le fait Khamzat, bah effectivement, on a très très peur pour Nate Diaz. Le combat nous dira comment ça va se passer, mais ce que tu me disais toi, c'est qu'effectivement, y a moyen que, et c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est ce qui est un peu terrible dans les sports de combat, ce sont les mismatchs, c'est-à-dire mettre deux combattants l'un en face de l'autre qui n'ont pas du tout le même niveau, et là, ça rend les choses très dangereuses. On espère que ça ira pour Nate Diaz, mais c'est vrai que c'est quand même très chaud, quoi.
Wow. Ah ouais, non, je m'attendais pas non plus de ton côté à autant d'inquiétude, parce que ça reste un combat quand même entre deux athlètes de très très haut niveau. Ça reste un combat entre deux athlètes de très très haut niveau, je pense que Khamzat va gagner, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je me dis quand même Nate Diaz, qui reste sur des défaites face à Masvidal, défaites face à...
Leon Edwards,
exactement, pardon. Mais ça reste la crème de la catégorie aussi. Et ok, il s'est fait couper énormément dans ses combats. Il a été knockdown plusieurs fois face à Masvidal. Mais c'est pas comme le combat justement Dan Hardy-Diego Sanchez. Après, faut voir comment va revenir Dan Hardy. Ou même quand le Eagle FC avait fait Kevin Lee-Diego Sanchez. Où là, ouais, je flippais vraiment. Parce qu'on a quelqu'un qui aujourd'hui, en la personne de Diego Sanchez, n'a plus du tout le niveau... top, même pas top contender, même pas top 15. Enfin, aujourd'hui, il devrait juste faire des exhibitions pures et simples. Et face à un mec comme Kevin Lee, qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, considéré comme un futur champion en puissance chez les moins de 70 kilos, ça m'inquiétait vraiment. Là, Nate Diaz, il a toujours... Enfin, je veux dire, tous ces combats qu'il fait, il n'y a jamais eu de combat facile ces dernières années pour lui. Et à chaque fois, il affronte la crème de la catégorie. C'est pour ça que ça m'inquiète pas trop. Moi, c'est plus le côté, le spectacle qu'il va y avoir si on... Un peu comme ce qui se passait, mine de rien. Je sais pas si vous avez eu ça aussi, mais nous, avec Ross, quand on a regardé le combat, avant les 15 dernières secondes de Leon Edwards Nate Diaz, je trouvais ça pénible à voir. Vraiment, je trouvais ça pénible. Ouais. Parce que j'étais en mode, il ne va rien faire. Là, il est en train de se faire rouler dessus pendant 3 rounds, et c'était que... Non, c'était 5 rounds. Il se faisait rouler dessus pendant 5 rounds. Et c'était vraiment... Tu vois, à partir du moment où Leon Edwards a commencé à mettre ses sweeps, je trouvais ça humiliant. Mais vraiment ouais, très, très humiliant.
Ben c'est ça, et puis c'est vrai qu'il se faisait vraiment... C'était une leçon, quoi. C'est-à-dire, en striking, c'était tout simplement une leçon de la part de Leon Edwards, qui n'avait pas forcé beaucoup pour dominer Nate Diaz. Et contre Masvidal, ben c'est vrai que là, il y a eu un différentiel de férocité, visiblement, ou enfin, en tout cas, dans la plupart des échanges, Masvidal avait quand même le dessus. En fait, là où moi, ça me fait super peur, c'est que dans les deux combats là qu'on vient de citer, c'était en striking que ça se jouait, et on sait que c'est là où il a une chance, Nate Diaz, parce qu'il a quand même une boxe qui est super originale et pas évidente à gérer. Enfin, ça dépend comment tu t'y prends, parce que bah, avant de se faire surprendre, Leon Edwards y arrivait parfaitement. On a vu des gars comme Dos Anjos, avec les kicks notamment, réussir à sans aucun problème disposer de Nate Diaz. Mais on a vu aussi certains qui avaient beaucoup plus de mal, alors qu'ils sont aussi des très bons strikers, comme Anthony Pettis dernièrement. Après, voilà, c'était peut-être pas le même Anthony Pettis non plus, même s'il avait mis KO... Wonderboy dans ces eaux-là. Mais là, la différence pour moi, c'est que ça va se jouer dans un domaine où Nate Diaz, il a pas pied, quoi. Enfin, la lutte et les transitions de Khamzat, quand on voit la facilité avec laquelle il met au sol tout le monde.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il y a que Gilbert Burns qui l'a pas réussi à mettre et à garder au sol aussi facilement, mais c'est Gilbert Burns, quoi. Enfin, c'est le top 3 welterweight et qui est très bon dans tous les domaines. Et c'est moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que...
Mais pourquoi accepter le combat dans ce cas-là? Parce que c'est aussi l'autre question que j'ai. Pour Nate, parce que c'est un combat où il voit bien ce qui se passe avec Ramzat Chimaev. Nate Diaz, aujourd'hui, mine de rien, il est né en 85, je crois, donc il a 37 ans. Il a pris beaucoup de dégâts au cours de sa carrière. Il sait qu'un combat contre Ramzat, ça peut l'éloigner pendant peut-être possiblement un an s'il y a des énormes coupures et si en plus il se fait rouler dessus, il va perdre un an de sa carrière sur les dernières belles années qui lui restent, tu vois. Donc pourquoi accepter ce combat-là? Sachant que c'est très risqué pour lui.
Après, pour qu'il soit maintenu un an hors de la cage ou des rings, parce qu'après, visiblement, il fera ce qu'il veut puisqu'il ne sera plus sous contrat avec l'UFC, pour que ce soit un an, il faudrait que ce soit une sale blessure quand même. Parce qu'en vrai, s'il perd et que c'est par sauvage ground and pound, ce sera maximum 6 mois, hein, normalement. Maximum.
Maximum. Après,
du coup, c'est pour ça que ça va dépendre de la manière dont ça se fait. Mais déjà, premièrement, ce qui est bien, c'est que la réponse, la question est vite répondue, c'est que Nate Diaz voulait juste, quoi qu'il arrive, se barrer de l'UFC. Et donc, même s'il n'était pas chaud au début, après, il était en mode, bon, allez, donnez-moi Ramzat, comme ça, on en finit. Donc, c'est pour ça qu'il a Ramzat et qu'ils vont en finir. Mais du coup, ce qui est le plus probable, et comme tu l'avais judicieusement souligné la dernière fois, quand on avait parlé de cette situation, c'est que, comme là, il y a eu le précédent Gilbert Burns, que Andreas Michaels, le coach de All-Star, le coach de Ramzat, sera en mode, on ne prend pas de risque et on va là où on est les plus efficaces. Donc, la transition, la lutte, les transitions, la lutte. Donc, voilà, j'espère juste que ce sera rapide, en fait. Dans le sens, mise au sol, un peu comme ce qu'a fait Ramzat pendant tous ses combats à l'UFC, à part Gerald Merchert et Burns, tu vois, genre, voilà, il arrive, mise au sol, ground and pound, et puis on en finit, quoi. Ce qui serait terrible, mais ce qui a une chance qu'il arrive quand même, c'est qu'effectivement, on ait le droit, parce que Nate Diaz n'abandonne jamais, c'est qu'on ait le droit à peut-être une ou deux ou trois minutes de ground and pound de Ramzat, et que là, ce soit effectivement, et c'est ce qu'avait en tête Dan Hardy, que là, ce soit effectivement très pénible à regarder, quoi.
C'est exactement ça qui me fait peur aussi. Que ce soit ça, ou même au-delà des 3-4 minutes, c'est qu'on ait plusieurs rounds de la sorte. Hein. Parce que je veux dire, le combat contre Leon Edwards, ok, il n'y avait pas de moment où Nate Diaz était sur le point de se faire finir, mais au bout d'un moment, même les commentateurs, ils étaient bons. Le mec, il est ouvert de tous les côtés. Leon Edwards, il est tranquille. À quoi bon continuer? Parce que jusqu'aux dernières secondes, Nate Diaz réussit l'impossible, enfin quasi l'impossible, puisqu'il n'a pas réussi à finaliser. Mais on était, ça sert à quoi? Enfin vraiment, ouais. Il va pas revenir, il va perdre, ils sont pas du tout du même niveau, et sauf qu'avec Ramzat, je pense que ça peut être encore plus sauvage, tu vois, c'est vraiment ça moi qui me fait flipper, enfin en tout cas, aura la réponse au mois de septembre prochain, et puis surtout, c'est Rust en avait parlé en off avant le podcast, c'est vrai que ça peut avoir des, au-delà de ce qui peut se passer, qui peut être terrible pour Nate Diaz, c'est qu'il peut y avoir des grosses répercussions pour l'UFC aussi, à faire de tels combats, si ça vient à se passer comme... Tout le monde le craint là aujourd'hui, à savoir un mismatch complet pour l'un des événements les plus regardés de l'année. Si t'as Nate Diaz qui sert de serpillère et qui se prend vraiment des coups hyper violents et qui à ce côté, il aurait fallu arrêter le combat un peu avant. Tout le côté, toutes les critiques qui sont faites au MMA sur le fait que ce soit un sport qui soit un petit peu violent, un petit peu trop, enfin le côté où justement il n'y a pas trop de règles, là ça pourrait aussi aller du côté de l'UFC dans les critiques qui reviendront parce que les images feront évidemment le tour de la planète. Et surtout, à mon avis, ce qui impressionnera les gens, c'est déjà quand on va les voir le jour de la pesée face à face, on va faire « Ah oui, d'accord ».
Ouais, c'est ça. Le face-à-face, le lendemain, c'est-à-dire dans la pesée cérémonielle, quand les deux ont eu le temps de se réhydrater, il y a moyen que ça fasse vraiment, vraiment flipper. Et à ce moment-là, on verra et on saura. Mais quand on verra que c'est Ramzat qui est littéralement, il y a des chances deux fois plus gros, enfin, toute proportion gardée, évidemment, il fera 160 pas 140 kilos.
Ouais, voilà.
Mais effectivement, je pense qu'on on aura un petit avant-goût, quoi. J'espère me tromper, hein. Très franchement, j'espère me tromper et j'espère que Nate Diaz réussira, à faire du Nate Diaz, quoi, à placer une soumission après s'être pris 3 minutes de ground and pound et réussir à mettre un triangle ou un truc comme ça, même si on n'a plus beaucoup qui passent à l'UFC depuis quelques années, mais J'espère, soit ça, enfin KO, je pense pas, parce que enfin les KO, genre One Punch KO de Nate Diaz, ça n'existe pas.
Et puis vu ce qu'il s'est pris et qu'il n'est pas tombé contre Gilbert Burns.
Bah c'est ça, oh, et puis tu vois, même si, tu vois, imaginons, il arrive à faire ce qu'il a fait à Leon Edwards, c'est-à-dire à surprendre Khamzat et à lui mettre un enchaînement qui le met en danger Khamzat. Bah, j'ai quand même du mal à croire que Khamzat n'arrivera pas à faire ce que, par exemple, Curtis Blaydes faisait contre Mark Hunt quand il était en danger. C'est-à-dire, je viens de me prendre un sale coup et je suis pas bien du tout. Heureusement, j'ai tellement des années-lumière d'avance en lutte que même si c'est un panic takedown, bah, en fait, un panic takedown de Khamzat contre Nate Diaz ou un panic takedown de Curtis Blaydes contre Mark Hunt, bah, en fait, ça passe, quoi.
Mais voilà. Biosti, vous savez tout. J'ai pas, pour finir juste le podcast rapidement. J'ai pas d'exemple là dernièrement, tu vois, de combat comme ça, un petit peu gros traquenard sur le papier, et qui ont été, quand on a regardé le combat, effectivement un énorme traquenard. Parce que j'avais en tête, tu vois, il y avait eu Diego Sanchez, Michel Pereira, où Diego Sanchez s'était imposé par disqualification.
Oui.
Mais tu vois, des trucs où... Ouais, Benny Naouche, Tony Ferguson non plus, parce que sur papier, les gars étaient au même niveau.
Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, vraiment un truc où on se dit, oula, de la part de l'UFC, c'est quand même très très chaud de faire ça, tu vois.
Ouais, un truc à la limite, mais ça remonte. Parce que c'est vrai qu'il y a eu genre CM Punk, Mick Egal, mais ça remonte beaucoup trop.
Ouais, et puis, ouais, mais ça remonte, mais à l'époque, on savait pas. Hein. Enfin, je veux dire, à l'époque, Mick Egal, c'était son premier combat, si je ne m'abuse, à l'UFC. Et il venait de battre Mike Jackson. Mike Jackson. Il n'y avait pas le Contenders à l'époque. Et Mike Jackson qui a ensuite été l'adversaire. Et justement, c'est ce qu'on se disait, c'est le mec Mick Egal qui vient de battre un journaliste.
Ok.
Donc, ouais. Dans l'idée, enfin, puis je veux dire, dans l'idée, l'UFC, il voulait investir sur CM Punk et que le mec devienne une star.
Ouais.
C'est juste qu'ensuite, on a vu le truc, on s'est dit, bon.
Dites-nous hein, si jamais vous avez. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'à brûle pour point comme ça, j'en ai pas.
J'ai rien en tête, mais il y en a sûrement eu de toute façon de la part de l'UFC, évidemment. Moi comme ça dans les tout derniers combats, mais c'était différent, c'était le short notice de Romero à l'UFC au Bellator Paris.
Ah ouais.
Où là pour le coup, mais c'était un short notice et donc fallait faire combattre Romero et le mec était pas du tout à son niveau.
Bah après oui, cela dit, il y a aussi tous les combats de Michael Page.
Oui.
Contre des gars qui étaient pas du tout au niveau.
Mais là ça a changé aussi depuis au Bellator parce que maintenant il affronte vraiment des noms. Mais ouais. Bon enfin. À l'UFC, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Vous le savez, Bichala, MySweetPay, MySweetProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et puis, nos savons, c'est sur Onae, onae.fr. Big oh wow, avec le freezer, le banger. See ya, Big Hostie.
See ya.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.